Les bases de données relationnelles, mises au point dans les années 70, dominent encore le marché au niveau mondial. Ce monopole de fait les transforme en outils à tout faire, à la fois pour représenter les données et pour les manipuler. C'est en fait une version du dicton suivant lequel, quand on n'a qu'un marteau, tout ressemble à un clou. Le mouvement récent des bases NoSQL veut répondre aux limites du modèle relationnel pour certains types de problèmes, comme les réseaux sociaux, et pour les données massives, évolutives et réparties dans le monde entier que le web crée et manipule. Ce mouvement aurait donc probablement dû s'appeler plutôt NoRelational, non relationnel, mais l'appellation NoSQL, un peu trompeuse, plus frappante, s'est imposée. Soulignons-le, il n'y a pas d'un côté le modèle relationnel et de l'autre un modèle concurrent NoSQL. Il y a en fait plusieurs familles de bases de données NoSQL. Elles correspondent à des manières distinctes de répondre à différentes limites de l'approche relationnelle. L'exemple des recommandations de Twitter nous a permis de comprendre la motivation d'une première famille, les bases de données dites orientées graphes. Cette famille est adaptée au traitement des réseaux massifs. Des opérateurs particuliers permettent d'effectuer efficacement des calculs sur de tels réseaux, filtrer des chemins dans un graphe en fonction de leur longueur, de la direction des liens, des propriétés des liens et des nœuds, etc. Deuxième famille, les bases de données orientées colonnes. Les bases de données relationnelles, de manière transparente pour l'utilisateur, représente souvent une table en mémoire comme la mise à la queue leu-leu des lignes de ces tables. Elles sont donc orientées lignes. C'est le cas par exemple de MySQL utilisé entre autres par WordPress ou par voyage-sncf.fr. Cette représentation est adaptée quand on s'intéresse simultanément à plusieurs colonnes des lignes d'une table. Quand on s'intéresse avant tout à des colonnes de manière indépendante les unes des autres, par exemple pour connaître l'âge moyen des utilisateurs, l'orientation colonne est plus efficace. On le voit sur cet exemple, la manière privilégiée de traiter les données conduit à changer la manière de les stocker. Troisième famille, les bases de données orientées clé-valeur. À une clé est associé un objet unique dont la structure est laissée souvent à la charge du développement de l'application. Les opérations sont minimales, créer une association entre un objet et une clé, lire un objet à partir de sa clé, modifier un objet à partir de sa clé, détruire l'objet correspondant à une clé donnée. Cette simplicité permet une grande efficacité de lecture-écriture et le changement aisé d'échelle au prix de fonctionnalités qui sont soit limitées, soit développées de manière spécifique. C'est le fonctionnement pour certains systèmes de sauvegarde de type Dropbox. Il crée un identifiant unique pour chaque utilisateur, il dépose et organise sous cette clé un tas de données correspondant à l'utilisateur. Ils assurent les modifications de ce tas de données. La base de données, quant à elle, borne son rôle à assurer la création et la modification de l'association entre un identifiant unique et un tas de données. Dernière famille, les bases de données orientées documents. Notons d'abord qu'il ne s'agit pas de texte. Par document, il faut entendre un objet contenant des sous-boîtes qui peuvent varier en nombre et en structure. Les documents au sein d'une collection n'ont pas forcément la même structure. Ces bases de données permettent d'accéder à un document par son identifiant, mais aussi par les noms donnés aux sous-boîtes ou par les valeurs que ces sous-boîtes contiennent. eBay, par exemple, utilise un tel type de base de données pour gérer une partie des métadonnées sur les produits vendus. La structure des métadonnées varie selon les types de produits. Alors, au registre des avantages des base de données NoSQL, on peut mentionner le faible coût relatif. Ce sont souvent des projets open source, d'utilisation soit gratuite, soit peu coûteuse, ou des services dans les nuages à coût progressif. Deuxième avantage, les fortes performances liées à une bonne gestion de la répartition du stockage et des traitements. Temps de réponse rapide et constante, résistance à l'augmentation du nombre de requêtes. Troisième avantage, la résistance au changement d'échelle, c'est-à-dire à la taille des données. Quatrième avantage, la capacité à faire évoluer la représentation des données. Les bases de données relationnelles reposent sur des tables où toutes les lignes ont la même structure. Changer la structure d'une base de données relationnelle est une opération lourde et complexe. Les éléments d'une collection, dans une base de données NoSQL, n'ont pas forcément la même structure. Celle-ci peut évoluer au fil du temps. C'est un avantage dans le contexte du web massif, où les données recueillies voient souvent leurs facettes changer au fil du temps et où, d'un individu à l'autre, la base ne dispose pas forcément des mêmes informations. Les services comme Facebook ou Twitter n'ont pas seulement multiplié dans des proportions étonnantes leurs utilisateurs, ils ont également changé et complexifié leur représentation de ces utilisateurs et de leurs relations. Au registre des faiblesses maintenant, ou des inconvénients des bases de données NoSQL, la jeunesse de ces familles et donc leur stabilité relative. D'autre part, le modèle relationnel dispose d'un langage de requête normalisé, SQL, ça n'est pas le cas des bases NoSQL. Certaines offrent des langages qui leur sont propres, d'autres supposent un travail de programmation spécifique pour mettre en place les traitements souhaités. Comme plusieurs familles coexistent, sans langage partagé et sans méthodologie de modélisation stabilisée, les passages d'une famille à l'autre ou d'une réalisation à l'autre ne sont pas immédiats. La migration des données et des traitements est à réaliser au cas par cas. La cohérence, enfin, et l'intégrité des données sont moins faciles à garantir. Alors bien évidemment, les deux listes qui précèdent sont à très gros grains. C'est pour chaque problème de stockage et de traitement, à condition qu'il relève effectivement des bases NoSQL, qu'il faut chercher la famille de bases de données la plus appropriée en fonction des forces et des faiblesses de cette famille et, bien évidemment, des produits effectivement utilisables. Au total, les bases de données NoSQL réfutent l'idée d'un outil à tout faire que seraient les bases de données relationnelles. Il s'agit, au contraire, de choisir le bon outil en fonction des données et des traitements concernés. Le mouvement NoSQL est donc une contestation de la suprématie de l'approche relationnelle et pas le refus d'y avoir recours quand elle est pertinente. Taille raisonnable des données, répartition limitée, cohérence et intégrité fortes demandées. Les tenants des approches NoSQL remplacent d'ailleurs souvent cette négation un peu forte par une affirmation plus tempéré, not only SQL, pas uniquement SQL. Il signifie par là que pour disposer des stockages et des traitements les plus adaptés à un contexte donné, il peut être judicieux de combiner les approches relationnelles et non relationnelles.